partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la dernière émission de la saison 2022-2023. Pourquoi chercher loin ce qu'on a sous nos yeux et ce qui pousse sous nos pieds? Mon premier invité est Adrien, le directeur général de Quel Bon Goût, K-E-L-B-O-N-G-O-O. Quel Bon Goût est une entreprise locale et un modèle en matière de consommation équitable, alternative, made in France, bio et bon marché. Elle vend des produits de l'agriculture paysanne française de producteurs locaux. Puisque l'été approche à grands pas, je vous propose une dernière en mode circulaire vintage. Selon l'ADEME, en 2050, le secteur textile émettra 26% des émissions de GES, des gaz à effet de serre, si nous ne changeons pas nos habitudes de consommation. Et toujours selon l'ADEME, 11 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. La production a doublé entre 2000 et 2014. Mon second invité est Rino et son organisation nommée Violette Sauvage, des vies de dressing géants dans plusieurs villes françaises. Et enfin, on conclura avec ma troisième invitée qui se nomme Léa. Sa jeune boutique aux 2000 pièces se nomme Soleia Vintage Shop. Elle nous parlera de sa passion en mode circulaire, bien sûr. Katy Perry, Miko, hey. 'Cause I'm all that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melt in your mouth, kind of loving. Bon appetit, baby.
Back for seconds, every single night. I'm the one that second change your life. Take off. Don't worry about she dripping with gel in my eyes. Black. Said she want a meager, now I ask her what's the price. Hold on. If she do right, told her to get whatever you like.
All set.
I grab her legs and I divide. I make her do a donut when she ride. I looking at the eyes of a dime if you blind. Yeah. In her spine, now I'm also diamond, check the climb.
Yeah. Sweet tooth, sweet. No tooth fairy.
No.
Whipped cream.
Whip.
No dairy.
Real.
Got a hot light on, screaming I'm red.
Hot.
But no horses. Woo. No carriage.
Go ahead.
Cause I'm all that you want, boy.
All that you want.
All that you can have, boy.
Oh.
Got this red like a buffet. Oh, no. Bon appetit, baby.
Eat it up, eat it up, eat it up.
Life is a function.
Yeah, yeah, yeah.
Fresh out the oven.
Yeah, yeah, yeah.
Mouth and a loving. Oh, no. Bon appetit, baby.
Bon appetit.
Pourquoi chercher loin ce qui pousse sous nos pieds ? L'entreprise Quel Bon Goût, basée à Paris, est un modèle de production et consommation locavore. Ça veut dire qu'elle va privilégier les circuits courts, les producteurs locaux, bien entendu, sous-entendu, l'agriculture française et l'agriculture bio. Elle sécurise aussi son modèle économique. Les produits sont de saison, frais. Qui dit circuit court dit produits non irradiés, ça c'est important puisque la santé est préservée. C'est moins cher, aussi bien pour l'entreprise que pour les consommateurs, les clients. C'est écologique parce que l'entreprise va produire moins d'énergie, moins d'emballage, moins de transport, évidemment moins de pollution. Enfin, c'est éthique sur le plan social puisqu'elle privilégie les petites exploitations. Allez, on va parler de tout ça, de tous ces bénéfices avec mon premier invité, Adrien, le directeur général de Quel Bon Goût. Bonjour, Adrien.
Oui, Arnaud.
Arnaud, alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites au sein de l'entreprise ?
Alors, bah, enchanté déjà,
ouais.
Merci de nous accueillir. Pour ma part, donc, je suis donc le directeur général de Quel Bon Goût et mes missions au sein de Quel Bon Goût sont plutôt orientées sur toute la partie administrative, la partie technologie et la partie opération.
Et vous ?
Et moi, donc Arnaud, enchanté, merci à IDFM de nous recevoir, radio qu'on essaye même de passer en boutique de temps en temps.
Ah bon, ouais.
Et donc moi je suis président de Quel Bon Goût,
ouais.
Associé d'Adrien. On est donc entrepreneur individuel et pour ma part je m'occupe des partenariats, du développement de la structure et de la gestion des boutiques, des points de vente.
Ça fait pas longtemps que vous avez repris la maison.
Tout à fait. On a commencé à travailler sur le dossier courant janvier et on est officiellement aux manettes seulement depuis le 1er mars.
Et pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette aventure ?
Ah, ça c'est déjà...
Vous avez toujours baigné dans l'alternatif.
On a toujours baigné dans l'alternatif. Adrien en parlera mieux que moi, mais il est d'origine italienne, avec des grands-parents et des parents qui ont travaillé dans la food. Et moi, je suis de l'ouest de la France et j'avais de la famille qui était donc maraîcher. Et surtout, ce qu'on voulait, c'était un projet qui colle à nos valeurs et un projet qui sert aux autres. C'est-à-dire pas forcément, on voulait un projet qui va permettre aux Parisiens et aux Franciliens en général. En ce moment, on est présent à Paris et en Seine-Saint-Denis, donc 93-75, que ces personnes-là puissent avoir accès à de la nourriture en circuit court, de qualité et surtout avec des prix... exactement, avec des prix maintenus.
Donc on peut dire que vous êtes vraiment locavore.
Exactement.
On va parler des producteurs. Donc vous avez un éventail de producteurs locaux. Combien vous en avez à peu près ? Et est-ce que ça change souvent ou est-ce qu'ils sont fidèles ?
Alors aujourd'hui, on a à peu près une centaine de producteurs.
C'est énorme.
C'est énorme. Ce sont des petits producteurs. C'est vrai que contrairement à la grande distribution, où on va avoir quelques gros producteurs qui font des volumes astronomiques, on a des petits producteurs qui nous envoient des quantités. Parfois, c'est 2-3 caisses.
Ah oui.
Donc, c'est de petits volumes. Donc, on travaille avec ces 100 producteurs de manière continue. Alors, pour certains, c'est juste une partie de la saison parce qu'on est sur des produits de saison. Donc forcément, quand on fait des cerises, on va pas faire des cerises toute l'année. On fait pas les fraises toute l'année non plus. D'ailleurs, c'est un peu le sujet du moment parce que les fraises, on a vu déjà beaucoup de fraises arriver sur les marchés, mais qui sont des fraises espagnoles. Nous, ça a tardé.
Fade et pleine d'eau.
Exactement. C'est il faut mettre beaucoup de sucre et de crème pour avoir quelque chose de savoureux avec ces fraises-là.
C'est pas très bon pour la santé.
Hein. Exactement.
Donc, qu'est-ce qu'il vous propose des céréales. Qu'est-ce que vous proposez pas le produit fini, mais vraiment les producteurs. Ils ont de la volaille, ils ont du lait.
Alors, on propose quasiment de tout. Donc, on va retrouver chez Quel Bon Goût des fruits et légumes, bien évidemment. Ça, c'est notre cœur de métier et c'est ce que vous trouverez de plus présent en boutique. Vous avez aussi de la viande, vous avez aussi des produits laitiers, un petit peu de poisson et aussi beaucoup de produits d'épicerie. Donc, vous allez pouvoir trouver des boissons, du champagne, de la bière, du jus de pomme, très bon jus de pomme, notamment de la maison des Évoissons. Exactement, du cidre, du fromage, parmi les produits laitiers, effectivement. Et très bon yaourt.
Alors, ce qui est important aussi pour les auditeurs et les auditrices, c'est les protéines. Voilà, faut mettre dans son assiette pour aller travailler, il faut avoir des protéines, comme disait mon père. Est-ce que vos producteurs sont des producteurs de viande blanche, rouge, du poulet?
C'est important.
Alors, on a un peu de tout en viande. Hein. Vous allez trouver du bœuf, du veau, du porc, de la volaille.
Toujours avec des petits producteurs. Hein. C'est justement de l'extensif. Vous n'avez pas d'intensif.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous allez trouver notamment sur ces protéines d'excellentes volailles. On a notamment des poulets fermiers qui sont vraiment délicieux que vous pouvez trouver soit entiers. Donc avec des calibres différents, vous pouvez avoir du petit, du moyen, du grand poulet, et aussi des produits à la découpe. Donc si vous êtes consommateur exclusif de blanc de poulet, vous pourrez trouver juste du blanc de poulet, juste de la cuisse chez nous.
Arnaud, est-ce que vous allez répondre aussi est-ce que vous faites vous êtes en agriculture bio ou pas forcément?
Alors, une grande partie des producteurs sont en bio. La partie restante est soit en agriculture raisonnée, soit en transformation bio.
Oui,
parce qu'effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut du temps. Il faut entre 3 et 5 ans sur une exploitation pour passer en bio. Et nous, on soutient ces producteurs qui sont en train de devenir des producteurs bio parce que le producteur qui est à 6 mois de recevoir l'étiquette, faut qu'il continue à travailler, faut qu'il fasse tourner et faut qu'il puisse vivre. Et pour revenir un petit peu sur les producteurs, exactement, on a des producteurs de quasiment tout. Vous pouvez quasiment faire entièrement vos courses chez Quel Bon Goût. Et ce qui est important, c'est qu'amis végétariens, venez chez Quel Bon Goût, mais amis viandards, venez chez Quel Bon Goût aussi.
Végétaliens aussi.
Ah, on aime.
Végétariens et végétaliens. Vous avez des œufs, évidemment. Hein.
Seulement bio.
Ah oui.
Voilà.
Ça doit être mieux pour vous quand même, puisque vous êtes en circuit court, de pouvoir faire les coûts, c'est plus intéressant. Vous sécurisez votre modèle économique, si je puis dire, et les contrôles sur place, c'est plus facile que si c'était dans un autre pays, et la qualité est privilégiée. Qui veut répondre?
Je peux répondre. Alors oui, en termes de coûts, alors ça semble plus intéressant au départ parce qu'on limite le circuit. En revanche, ce qui est un peu plus coûteux, c'est que comme on est avec plein de petits producteurs.
Faut vous balader partout.
Exactement. Donc on a quand même rationalisé ça et on a construit une organisation logistique qui nous permet vraiment déjà de limiter notre empreinte carbone. On le fait déjà avec le circuit court. Hein. On est à 130 km en moyenne de nos producteurs.
Ouais.
On n'est pas.
Je crois que c'était 250.
Alors c'est maximum 250, ouais.
mais la moyenne
c'est 130. Ouais. Donc on est vraiment très proche de nos producteurs.
Et même quand vous avez des huîtres. Ça dépasse un peu les 250.
Ça dépasse un tout petit peu. Je crois qu'on est à 270 ou 280.
Mais comme vous avez beaucoup de producteurs, donc ça va.
Voilà. Et de manière générale, c'est vrai que 130 km, c'est très court. Et en termes de logistique, donc on a fait en sorte de limiter au maximum notre impact carbone. On a mis en place des points de dépôt en Picardie, notamment. Et en fait, les producteurs qui sont juste à côté viennent déposer en point de dépôt.
Ah, c'est eux qui viennent.
Exactement. Et on fait, nous, la tournée. Donc, en fait,
au point de dépôt.
Exactement. Donc, en fait, eux, on en a 5. on en a pas mal, et ça nous permet à la fois de limiter notre empreinte carbone et de réduire les coûts, donc de proposer des prix plus accessibles aux clients. Et effectivement, ça limite le temps de traitement, parce que un producteur qui fait aujourd'hui un circuit court,
pour venir déposer.
Pour eux, c'est pas une grosse contrainte. Ils ont 10 km à faire, donc c'est très court. Quand on regarde ce qui se pratique habituellement, notamment en circuit court, on est plutôt sur des producteurs qui viennent livrer individuellement les acteurs du circuit court, par exemple en Île-de-France. Le modèle de la grande distribution, c'est encore autre chose. Ce sont des transporteurs indépendants qui viennent chercher chez chaque producteur de manière peu organisé, peu structuré, peu optimisé. Souvent, c'est des camions qui naviguent à vide, ou quasiment à vide. Hein. On va trouver quelques caisses quand en plus on va chercher des produits qui sont dans le fin fond de la campagne. On va naviguer à vide avec ce camion, donc polluer énormément, alors que nous, dans notre circuit, on va rationaliser ça et avoir des camions qui sont bien remplis.
Ouais, ouais. Vous êtes combien à travailler, excusez-moi ?
On est quasiment une quarantaine.
Ouais,
on commence à
dispatcher dans les boutiques en même temps. Combien vous avez de boutiques déjà ?
On a 3 boutiques, ouais, et 8 points de distribution dans le 93. Donc 3 boutiques à Paris. Mmh. Donc dans le 20e, 2 boutiques, rue Saint-Blaise, rue du Borrégo, et dans le 10e, rue Bichat.
Et vous êtes un peu itinérant aussi.
Exactement. Ça, c'est grâce aux points partenaires qu'on a en Seine-Saint-Denis, qui sont, comme peut-être certains ont connu dans les campagnes à l'époque, les magasins bleus. Nous, c'est le camion qui a le bon goût, qui vient une à deux fois par semaine sur des créneaux de 2 heures, de 17h à 19h. Vous pouvez venir récupérer vos commandes très facilement à côté de chez vous.
Combien vous avez de références en gros ? Moi, j'avais noté 3000, mais c'est pas possible, 3000. 3000, c'est trop.
Je me suis trompée.
Alors, c'est pas 3000 en même temps, parce qu'il y a encore ce sujet de la saisonnalité. Mais effectivement, sur les gammes de produits dont on dispose, on est effectivement à plusieurs milliers de produits disponibles, toutes gammes confondues.
D'accord. Est-ce que vous faites des produits transformés, peut-être par les producteurs, du riz au lait ou des choses comme ça ?
Alors oui, aujourd'hui, les produits transformés sont exclusivement des produits transformés par les producteurs. Donc vous allez retrouver de la mousse au chocolat, du riz au lait, des terrines, des produits transformés, mais de manière assez classique. Vous allez trouver aussi quelques produits type tarte, gâteau, qui sont proposés par l'atelier des Lilas. Voilà, qui font de très bons gâteaux, de très bonnes tartes. Et nous sommes en train de travailler actuellement à un projet de transformation, donc pour pouvoir transformer nous aussi les produits, notamment dans une démarche anti-gaspi pour tout ce qui est invendu, pour les transformer en produits sympathiques, notamment le petit houmous, les petites salades de carottes avec des vraies carottes qui ont du goût et pas celles de supermarché qui baignent dans la sauce.
Alors, on va parler des prix maintenant pour les acheteurs. En circuit court, on pense quand même que ça va être moins cher. Hein. Puis en plus, il n'y a pas les irradiations faites d'un pays à l'autre. Enfin, il y a plein de coûts qui diminuent. C'est à peu près combien moins cher ? 20%, 10%, 15% des grandes surfaces ?
Alors, à produits équivalents, donc c'est-à-dire sur des produits de qualité, circuit court, majoritairement bio, on est effectivement 10 à 15% moins cher qu'en grande surface. Après, comparativement aux autres circuits courts, on est plutôt 30 à 40% moins cher.
Le pain, c'est plus cher, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais...
Oui, alors le pain est forcément plus cher, parce que ce sont forcément des produits qui sont artisanaux. Et quand on voit les vraies bonnes boulangeries qu'on peut trouver, par exemple, à Paris, si on prend la boulangerie Utopie ou l'atelier P1, Farine, ce sont des boulangeries où les prix sont... plus élevé, mais parce que la qualité est là, parce que on travaille un vrai levain et que les produits de base sont vraiment des produits de qualité.
Comment s'organisent les achats, Arnaud ?
Soit
on peut venir directement, ou soit il faut les commander.
Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des ventes tout au long de la semaine sur le site, click and collect, vous commandez et vous venez chercher votre commande, soit en point camion dans le 93, soit dans les boutiques à Paris. Depuis peu, on a étoffé aussi grandement la gamme disponible dans les magasins, ce qui vous permet de venir faire vos courses sans forcément avoir commandé. Et donc ça, c'est quand même pratique, parce que bon, on sait que le mode de consommation, surtout à Paris, se fait avec plusieurs courses dans la semaine, plutôt que souvent un gros stock qui va durer une semaine.
Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver chez vous ? Par exemple, les fraises, c'est bien joli, mais ça doit être difficile quand même. Les tomates, là, elles sont dans le sud, on les a tout de suite, mais là, elles sont un petit peu en retard. J'ai demandé à un de vos collaborateurs, mais il n'y a pas encore de tomates.
Alors oui, c'est le sujet de la saisonnalité. On est forcément impacté. On travaille en circuit court, donc les fraises arrivent plus tard. Les fraises sont déjà là depuis plusieurs semaines. On a de super fraises. L'avantage d'attendre, voilà, c'est franchement elles sont délicieuses et elles vont aller en se bonifiant avec la saison parce que le soleil est là. Là, on a notamment notre super producteur qui arrive.
Des cerises.
Il fait des fraises et des tomates.
Des fraises et des abricots, vous en avez ? Parce que c'est dur en ce moment la récolte des abricots en France. En France, il paraît que la production a diminué.
Bientôt, on aura des abricots, on aura des mirabelles, on aura ce genre de produits qui viennent...
Et des cerises.
Et des cerises. Bon, par contre, malheureusement, on n'a pas de Coca-Cola.
Ah non, puis vous n'avez pas de mangue non plus, puis vous n'avez pas d'avocat. Bon, ben voilà, on fait du saison, on fait du locavore, enfin voilà. Ben écoutez, je vous remercie, vous vouliez conclure ?
Ah bah écoutez, si vous voulez bien manger, si vous voulez trouver de beaux produits et aider les super agriculteurs avec lesquels on travaille, venez chez Quel Bon Goût, on vous accueille avec grand plaisir, nos équipes sont là.
Et surtout, on parle de goût, mais on a oublié d'en parler. Quel Bon Goût, c'est que le locavore, c'est le goût est meilleur. Hein.
Mangez bien, mangez au bon prix, mangez chez Quel Bon Goût.
Voilà, et en bonne santé.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Et Animaux et Nature jusqu'à 13h chaque deuxième samedi de mois. Je vous présente maintenant Rino, il va nous parler de Violette Sauvage, une entreprise qui organise des vides dressing géants en France. La prochaine aura lieu à Paris les 17 et 18 juin au Palais de la Femme entre 11h et 18h. Selon l'ADEME, 11 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. Et sur la page Instagram de Violette Sauvage sont écrits dans le feed quelques paroles et conseils, ça et là, comme, je cite, « Le vêtement le moins polluant est celui qui a une seconde vie » ou « Astuce zéro déchet pour renouveler l'air de votre maison » ou encore « Le peu qu'on peut faire » Le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. Théodore Monod. Alors celui-là, c'est mon préféré. Donc, Violette Sauvage, c'est du shopping circulaire en vide dressing. Ne jetez plus, réparez, upcyclez, nettoyez et vendez. Alors bonjour Rino.
Bonjour.
Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites au sein de Violette Sauvage ?
Donc je suis cofondateur et trésorier de l'association Violette Sauvage qui a vu le jour en 2010, octobre.
Une association,
oui, une association de loi 1901. La genèse du projet en fait est une synergie de deux personnes, la cofondatrice qui ne fait plus partie de l'aventure mais qui est à l'origine du projet et moi-même. L'idée était dès 2010, on avait identifié une problématique liée à la consommation, la surconsommation et aux problématiques liées à la production qui était trop importante par rapport aux besoins réels des gens. Moi, je viens de la grande distribution.
Oui, d'accord. Donc ça, c'est intéressant toujours de savoir le passé des gens.
Et la grande distribution, où j'ai pu y passer 4 années, je me suis vraiment rendu compte que notre tissu productif et le tissu de vente n'étaient pas du tout en adéquation avec nos besoins réels et avec une vision, on va dire, long-termiste de la gestion des ressources.
Alors pourquoi ce nom, Violette Sauvage ?
Violette Sauvage, c'est... La cofondatrice, son nom de scène, c'était Violette. Et la synergie de tous les deux, c'était une émulation un petit peu mouvementée. Donc du coup, on a décidé de s'appeler Violette Sauvage.
Alors, ça a toujours été une organisation de vide dressing au départ ?
Ça a toujours été des vide dressing. À la base, les vide dressing étaient quelque chose de très petit, de très intimiste.
Qu'on trouvait sur les marchés, d'ailleurs, on les trouve toujours sur les marchés, sur les...
Alors, les vide dressing, c'était plutôt des réunions d'amis dans des espaces vraiment clos et privés. À l'origine, c'était des copines qui se... un peu comme des réunions Tupperware pour schématiser la chose, des choses un peu intimes. Et du coup, on a décidé de l'ouvrir en beaucoup plus grand. Habitant à Paris, capitale de la mode, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire prendre conscience aux personnes qu'il fallait mieux consommer tout en faisant un événement qui soit cool et trendy. Et donc, on a eu l'idée de faire des maxi vide-dressing géants. Et donc, c'est comme ça que le projet est né.
Alors, moi, je trouve ça sympa, cette idée, parce que en fait... on peut aussi faire des vide-dressing dans les brocantes, etc. Mais moi, j'avais pas l'idée qu'on pouvait les faire comme ça dans des hangars ou dans des grandes salles immenses où plusieurs personnes professionnelles ou pas pouvaient se regrouper.
L'idée, c'est le merchandising et le marketing sont quand même très importants. Un produit qui est vendu sur une étale de brocante n'aura pas la même perception qu'un produit qui est mis en scène dans un espace sympa, achalandé, avec de la musique, avec tout ça.
Avec une notion de sûreté ou de sécurité aussi.
Une notion de sécurité, une notion de sûreté, surtout une notion d'esthétisme et de beau. Le beau, l'esthétisme, l'emballage, on va dire, nos salons, c'est ni plus ni moins qu'un bel emballage pour mettre en avant les produits de seconde main.
C'est toujours très grand, vos vide-dressing ?
On s'adapte aujourd'hui aux différentes tailles, mais c'est mieux de faire un gros événement. Ouais. Plus le produit est gros, plus l'espace est grand et plus, on va dire, que la mayonnaise prend, l'émulation prend et ça fait un bel événement.
Combien vous êtes à collaborer ?
On a un écosystème de bénévoles qui tourne au niveau des différentes villes. On fonctionne avec des référents villes. Donc on a des référents qui sont à Nantes, qui sont à Bordeaux, qui sont à Marseille, qui sont dans les plus grandes métropoles de France. On a eu aussi par le passé des référents qui étaient en Belgique et en Italie. On a dû ensuite réduire la voilure par rapport au contexte qui était assez compliqué au niveau de l'événementiel, sur les lois travail, sur les gilets jaunes et sur les pandémies. Mais du coup, on fonctionne par référent et par bénévole.
Alors, si j'ai bien compris, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, vous êtes itinérant, hein, pas tout le temps, mais vous proposez vos vide-dressing géants, pas forcément à Paris. Il y en a un peu partout en France. Est-ce que vous pouvez nous donner une ordre d'idée d'autres villes ?
Alors, on a ciblé les principales grandes métropoles, on va dire, françaises, qui sont Rouen, Nantes. Ensuite, on va descendre à Bordeaux. On va faire ensuite une tangente sur Lyon. On va ensuite descendre à Marseille, Nice. Et là, il faut qu'on a aussi fait la Roche-sur-Yon, qui était une très belle expérience. Et donc là, on est en train d'étendre un peu plus, peut-être, sur Bayonne et descendre à Pau aussi.
Et alors, est-ce que vous auriez l'envie de vous expatrier, si on peut dire ça, et aller dans des villes proches d'Europe ?
On a déjà fait Bruxelles et Rome.
Ah oui, c'est ça, vous parlez d'Italie.
On a fait Bruxelles et Rome, c'était des très belles expériences. L'avantage du modèle vide-dressing, c'est qu'il est réplicable vraiment partout. On a une méthodologie de travail, on a... tout le matériel, on a tous les process pour pouvoir déployer un vide-dressing finalement n'importe où, dans n'importe quel type de lieu, quelle que soit sa taille.
Vous prêtez les tables, vous prêtez les cintres?
Alors, un vide-dressing comme on l'organise, c'est un événement solution clé en main pour les personnes qui viennent vendre. Nos vendeurs sont principalement des particuliers, puisque l'idée c'est de faire fonctionner l'économie collaborative et circulaire, et aussi des professionnels qui sont des professionnels de la fripe et du vintage. Et aussi des créateurs.
Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'exposants non professionnels, tels que moi par exemple, hein, qui n'est pas de boutique en ligne, ou pas ?
Selon les éditions et selon les lieux, on va dire que c'est du 20-80. On a 80% de particuliers et 20% de professionnels.
Et vous vérifiez vraiment ça ?
On a tout un process et d'inscription. Lorsque l'on ouvre une date de vide-dressing, on va créer sur le site web une page d'inscription où on présente la ville, la salle, la date, le lieu. Il est demandé ensuite à la personne qui candidate pour venir vendre de se présenter, de présenter les différents produits qu'il a, quelles sont les 5 marques les plus représentées comme étant des marques de grandes marques, quelles sont ces marques moyennes les plus représentées, quelles sont ces 5 marques les plus cheap les plus représentées.
D'accord.
Et par rapport à ça, on fait un tri. Lorsque la personne a suivi le process d'inscription, qu'elle est inscrite, le jour J, elle trouve sur son stand tout ce qu'elle a choisi en ligne. Une table, un portant, un tabouret, un miroir, une cabine d'essayage. Et nous, on compose le stand clé en main, à l'exception des cintres, parce que les cintres, en termes de logistique, c'est juste quelque chose de vraiment très compliqué à gérer. Du coup, on a arrêté et on se cantonne, entre guillemets, à faire le squelette de l'événement et l'implantation des éléments, table, chaise, portant, miroir, cabine d'essayage.
Alors, une question, quand vous allez vous expatrier, est-ce que vous donnez la part belle aux Françaises et Français exposants ou alors aux Belges ou aux Italiens quand vous allez en Belgique ou en Italie?
L'idée, c'est vraiment l'économie collaborative et circulaire. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas vraiment intéressant de faire voyager des vêtements de seconde main à travers l'Europe pour qu'ils soient vendus dans des grandes villes. Et aussi, on s'est rendu compte que finalement, la mode était très locale. C'est-à-dire que la façon de consommer la mode à Rome n'est pas forcément la même qu'à Marseille, qu'à Toulouse, qu'à Toulon. Et du coup, ça fonctionne mieux le local pour le local. À l'exception de quelques vendeuses parisiennes, qui, elles, partout où elles vont, elles ont vraiment de très belles choses et du coup, elles peuvent vendre partout.
Alors, qui dit vide-dressing, justement, dit qu'est-ce que vous avez sur les vide-dressing? On trouve de tout, des vêtements, des accessoires, des chaussures, des bijoux. Est-ce que pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants?
On a voulu penser les vide-dressings les plus grands possibles comme étant les rendez-vous de ce qu'on appelle le recyclage glamour. Ça, c'est vraiment un slogan qui était très très cher à notre cœur. Et donc du coup, dans nos recyclages glamour, on l'a voulu très grand pour que justement une personne qui rentre chez nous puisse nécessairement trouver quelque chose et à sa taille et à son goût. Donc il y a vraiment de tout, tout ce qui se porte et tout ce qui entre dans le concept de mode en fait.
Oui, mais alors qui dit vide-dressing pourrait dire aussi design, objet de décoration, il n'y en a pas. Hein.
On n'a pas d'objet de déco. Après, on est limité par la place. C'est-à-dire, un objet va prendre beaucoup plus de place qu'un vêtement. En revanche, on a beaucoup d'animations. Donc les animations font partie vraiment de l'univers et de l'expérience d'achat et de visite que l'on veut offrir aux visiteurs. Et parmi ces expériences, parmi ces animations, il y a parfois des personnes qui proposent de la décoration, qui proposent du do-it-yourself, qui proposent de l'upcycling ou de l'upcycler. Et donc ça rentre dans le cadre d'éco-objets.
Donc il y a de la restauration, des ateliers, des associations. Est-ce que vous avez des associations environnementales, vous les invitez, ou des partenariats?
On a donc depuis 2010, on a eu différents partenaires comme Oxfam, notamment, qui sont très impliqués dans les questions, on va dire, de gestion financière, de gestion de la nature. Et ensuite, on reste vraiment axé local, c'est-à-dire on va ouvrir les portes à toutes les associations locales pour qu'elles puissent rayonner au niveau d'une audience locale.
Vous proposez donc des choses à tous les prix? Hein, pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, etc.
On évite des choses trop peu chères, puisque justement l'idée c'est de ne pas promouvoir la fast fashion. Dans notre philosophie idéale, dans un monde parfait, il faudrait en fait que les façonniers puissent produire des choses qui sont chères. Les personnes qui ont le moyen d'acheter des choses chères peuvent les acheter. Par exemple, on va produire un pull en cachemire, j'ai n'importe quoi, je donne des chiffres à 100 €. La personne qui l'a acheté 100 sait qu'elle pourrait le revendre très facilement à 60, du coup elle lui aurait coûté que 40, mais comme le produit est de bonne facture, il pourra comme ça habiller 4-5 personnes et une fine dans la chaîne, chacun aura payé finalement assez peu. Un produit aura pu habiller 5 personnes et la personne qui a produit le produit finalement a bien gagné sa vie. Donc on évite vraiment la fast fashion et les petits prix.
Justement, au niveau des prix, est-ce que vous avez un droit de regard ou pas? C'est vraiment l'esprit libre de monter les prix. Vous savez que maintenant, le vintage, ça explose. Hein. Les prix sont très augmentés depuis la crise du Covid et moi, je trouve ça très dommage.
L'avantage de nos événements, c'est que c'est des événements où la loi de marché fait office, ce qui signifie que c'est les prix fixés par chacun qui vont déterminer les prix de l'ensemble. Et du coup, les vendeurs, durant l'événement, autorégulent les prix et surtout, on peut négocier. L'avantage d'un vide-dressing, c'est qu'il faut négocier. On revient dans l'idée, le concept de négociation, de discussion de prix.
Encore deux, trois petites questions. Comment connaître les dates et les modalités pour proposer son propre vide-dressing? On va sur le site, votre site, ou alors sur Instagram, on s'inscrit. Hein.
Le plus simple, c'est d'aller sur le site violettesauvages.fr, regarder les actus, ou alors laisser son mail au niveau de l'onglet newsletter, comme ça vous recevrez des mails informatifs, et suivre l'actu sur Instagram, Facebook et TikTok.
pour réduire l'impact des GES, justement, il faut que les clientes apportent leurs sacs, hein, vous les fournissez pas.
Alors, nous, on fournit des tote bags. C'est-à-dire que les clientes ont juste à ramener leurs vêtements et nous, on propose un service carte bleue.
Non, mais pour les acheteurs.
Et donc, au service carte bleue, on offre des tote bags à chaque achat. C'est-à-dire qu'on vient en caisse centrale demander un sac. Donc, c'est des sacs soit en craft, soit c'est du plastique recyclé, recyclable.
D'accord, donc ils repartent avec.
Ils repartent avec les sacs que nous fournissons.
D'accord, dernière question, les 17 et 18 juin, vous organisez donc au Palais de la Femme à Paris dans le 11e, donc un grand vide dressing. Faut-il s'inscrire si on veut acheter, si on veut visiter?
Alors, le visiteur n'a pas besoin de s'inscrire, il faut juste se présenter à l'entrée, s'acquitter du droit de participation de 2 euros. Les 2 euros sont très souvent contestés ou on comprend pas, mais l'idée en fait c'est de pouvoir vraiment motiver les visiteurs qui viennent à acheter et pas juste à flâner, dans le sens où malheureusement on peut pas se permettre d'avoir des lieux très grands et c'est pour pas avoir trop de personnes qui sont juste là pour se balader, mais vraiment des personnes qui veulent acheter.
Oui, enfin vous dites des lieux pas très grands, mais que c'est quand même des vide dressing géants que vous organisez, donc c'est quand même forcément un peu grand.
C'est un peu grand, mais pas assez grand. On aimerait toujours plus de place pour pouvoir avoir plus de facilité d'accès.
Ben voilà, merci.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Retour sur IDFM, la radio du bien-être et animaux et nature jusqu'à 13h chaque deuxième samedi de mois. Pour réduire les gaz à effet de serre, minimiser les achats neufs. Ma dernière invitée s'appelle Léa. Elle est vraiment passionnée par la mode circulaire et surtout avant les années 2000. Sa jeune boutique s'appelle Soleia Vintage Shop et regorge de trésors, pas forcément luxueux d'ailleurs, mais toujours des pièces stylées, bien designées, bien coupées. Elle a toutes sortes de pièces vintage de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et quand elle propose ses vêtements sur un événement ou un marché, on ne repart jamais les mains vides. On l'écoute. Salut Léa.
Bonjour Isabelle.
Alors depuis combien de temps tu as ouvert ta boutique qui s'appelle Soleia Vintage Shop?
Alors,
pas longtemps.
Ça fait pas très longtemps effectivement. Moi je suis active sur ma boutique Soleia Vintage depuis le mois de février 2023. Donc c'est hyper récent.
Et pourquoi tu l'as appelée comme ça?
Alors, Soleia Vintage, pourquoi je l'ai appelée comme ça? Alors, tout simplement parce que si tu regardes un petit peu la ligne directrice que j'ai voulu prendre pour, par exemple, ma communication ou sur mon Instagram, c'est quelque chose d'assez solaire, qui rappelle un peu l'été. Et puis, quand tu regardes bien Soleia Vintage, il y a mon nom qui s'est glissé dedans. Donc, Léa. Donc, voilà, j'ai voulu faire un peu écho.
Avec Soleil.
Soleil, Léa. Aussi, voilà, les gens disent que j'ai une personnalité assez solaire. Bon, écoute, du coup, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemblait et puis qui me plaisait, donc Soleia Vintage.
Et tu as toujours aimé les pièces de seconde main, ça vient de quelque part ça?
Alors c'est un peu une histoire de famille, hein. j'ai toujours aimé la mode, hein, déjà ça vient de ma grand-mère, de ma mère, voilà, c'est un peu les femmes de ma vie qui m'ont beaucoup inspirée.
Dans quel domaine elles travaillaient?
Alors, ma grand-mère, elle était femme au foyer, donc ma grand-mère est italienne, sicilienne même, et donc du coup ma mère est italienne, sicilienne, voilà, et donc elles ont toujours eu cet attrait pour la mode, pour les belles matières, le style, donc je pense que ça vient de là, donc voilà, j'ai toujours eu cet amour pour le vintage, évidemment, parce que on trouve des choses incroyables, des matières, une qualité que on peut difficilement retrouver maintenant
dans la mode de maintenant, surtout la fast fashion.
Surtout la fast fashion, ou alors il faut payer des prix exorbitants. Donc bon, voilà, ça vient de là.
Et alors après, pourquoi tu as eu le déclic quand? Alors tu t'es dit un jour comme ça, ou il y a eu une raison pour laquelle tu t'es lancé là-dedans? T'aurais pu essayer de vendre enfin, de travailler dans une boutique, tout simplement.
Bah, écoute, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu entreprendre. Voilà, moi, mon rêve, quand j'étais petite, je me voyais femme d'affaires. Non, mais vraiment, comme dans les films, tu vois, enfin, hyper indépendante. Je pense que je tiens de ça aussi de ma mère, hein, qui a un caractère très fort. Et voilà, je me voyais comme ça. Et je me suis dit, je travaillerais dans la mode. Voilà, je savais que j'avais quelque chose à faire dans la mode. Bon, après, le milieu de la mode, je pense pas que c'est un milieu qui me ressemble, mais je savais que j'avais quelque chose à faire avec la mode. Peut-être pas travailler pour quelqu'un, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc voilà. Après, je sais pas si tu veux que je te raconte mon parcours ou ça vient peut-être après. Super. Mais écoute, moi, mon parcours, donc j'ai eu mon bac. Après mon bac, j'ai...
T'es toute jeune, quel âge tu as?
Ah non, bah, j'ai 28 ans.
Donc tu fais plus jeune.
Ah, c'est gentil. Donc j'ai eu mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais qui je voulais devenir, mais je savais pas comment j'allais devenir cette personne-là. Bon, du coup, j'ai fait un BTS MUC, voilà, parce que vraiment...
C'est quoi un MUC?
Bah écoute, MUC, c'est Management des Unités Commerciales. Franchement, je...
Bah, voilà, donc ça a du télé.
Oui, bah un petit peu. Et donc, je l'ai fait dans une boutique. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, j'ai envie de faire dans quelque chose qui me ressemble, donc la mode. Donc, j'ai bossé pendant 2 ans en tant que assistante manager. Ça m'a bien aidée, hein, parce que mine de rien, tu rencontres des gens. Bah, j'ai travaillé pour le groupe Levi's. Donc, c'est quand même une belle marque. Voilà, donc j'étais très contente de travailler. J'ai fait des super belles rencontres. Et ça m'a beaucoup aidée. C'était dur au début parce que j'avais jamais travaillé de ma vie. Je savais même pas ce que c'était plier un vêtement. Enfin voilà, je savais pas ce que c'était. C'était dur pour moi. Donc j'ai fait ce BTS là. Et puis bon, je savais que j'avais envie de faire quelque chose en même temps business et puis en même temps créatif. Toujours en rapport avec la mode ou voilà, la création. Je savais que j'avais quelque chose à faire. Donc je me questionnais. Alors est-ce que je fais du merchandising visuel? Est-ce que je fais du stylisme? Est-ce que je fais... voilà, je savais pas. Et puis en même temps, j'aimais bien toucher à tout. J'aime bien la direction artistique. J'aime plein de choses. Mais je savais pas. Je me cherchais encore. Même si au fond de moi, je savais plus ou moins ce que je voulais faire. Et donc après, mon BTS MUC, parce que... c'était un peu trop c'était pas assez créatif, je me suis dit bon allez, je me lance dans des études de décoration d'intérieur qui n'ont rien à voir, mais pour moi ça a quand même tout à voir parce que voilà, j'avais envie de toucher un peu à ce monde un peu créatif. Et puis je me suis dit bah si plus tard je fais des événements ou si plus tard j'organisais des événements, je sais pas moi, des fêtes, des soirées, enfin ça me servira toujours. Et puis je sais pas, j'avais un attrait pour la décoration, pour tout ce qui est événementiel avant, donc voilà, je me suis mise là-dedans. Et puis là-bas, ça me plaisait, c'était sympa, mais il me manquait la fibre business. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait.
Et la fibre tissu.
Et la fibre, ouais. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait, en fait. Moi, je suis quelqu'un que, voilà, j'ai besoin d'avoir du sur-mesure, quelque chose qui me va comme un gant. Et puis, je trouvais que c'était sympa, mais je m'y retrouvais pas. Alors que bah, j'adorais, hein, pourtant. Vraiment, c'était hyper sympa. Et donc, je me suis redirigée après l'école de décoration d'intérieur dans un cursus qui était... très intéressant aussi, et je me suis dit bah, avec ce cursus là je vais pouvoir faire ce que j'aime. Donc du coup j'ai fait une licence en marketing digital.
Ah, oui.
Et un master en marketing digital. Et je me suis dit, mais c'est parfait. Avec le marketing digital, bah, je vais pouvoir toucher à ce que je veux. Et puis le digital, c'est l'avenir. Donc, on se lance et on y va. Et donc, j'ai eu mon master l'année dernière. Et je savais déjà ce que je voulais faire. Parce que moi, il me faut un plan dans ma vie pour me motiver. Il me faut un but, il me faut un goal. Et je me suis dit, après mon master, je lance mon entreprise. Toute ma vie, j'ai travaillé pour quelqu'un. Je me sens prête. Il faut que je le fasse. Et donc, tout de suite après mon master, bah, j'ai créé Soleia Vintage.
Oui, mais tu aurais pu faire de la décoration. Pourquoi t'as choisi le tissu, la mode? Parce que justement, tu aimais le tissu et la mode avant.
Eh ben, dis-toi que la décoration d'intérieur, ça m'aide. Ça va m'aider, en tout cas pour la suite, parce que ben, mon but à terme, c'est de créer des événements autour de ma marque. En fait, c'est de créer bien plus qu'une marque, c'est de créer carrément un univers. Et donc là, tu vois, par exemple, cet été, je vais exposer dans des endroits très très sympas à l'étranger.
Pendant de juillet à septembre.
Ouais, de juillet à septembre. Et en fait, ça va être des pop-up, des pop-up, et du coup je vais organiser tout un univers autour de ça, tu vois, c'est pas juste des portants.
Tu vas mettre de la décoration, ouais, tu vas mettre de la musique, peut-être que tu vas mettre aussi de la restauration.
Ouais, peut-être, voilà. J'ai vraiment envie de créer, voilà, j'avais vraiment envie de que mon travail, ça soit le reflet de ma vie, que mon travail, ça soit pas mon travail, que ça soit vraiment un loisir. Et puis le fait de de conjuguer tout ça, bah, je pense que ça me ressemble pas mal et donc je suis hyper contente, hyper heureuse.
Alors combien tu as de pièces actuellement ? Je suppose que tu as commencé petit parce ouais. que je pense que tu m'as dit que tu avais à peu près 2000 pièces, ce qui est ah, énorme, oui. mais tu as commencé comment au début ?
Eh bien écoute, donc figure-toi que bon, bah, déjà j'adore chiner, hein, j'adore, je suis une fouineuse, hein, que ce soit sur internet ou en physique, j'adore ça. Et bon, ma mère aussi, hein, pareil, ma mère c'est vraiment la reine des bons plans, elle te trouve des choses, elle te déniche des choses. Bon, il y a beaucoup de choses qui lui appartenaient, qui malheureusement lui vont plus. Elle m'a dit, bon, écoute, Léa, tu fais ce que tu veux, c'est ton héritage. Tu fais ce que t'en, ce que, enfin voilà, tu t'en fais ce que tu veux. Donc il y a beaucoup de choses qui lui appartenaient, il y a beaucoup de choses qu'elle a chinées, que moi j'ai chinées. Et
petit à petit, t'as augmenté ouais, ton cheptel, je dirais. Mais est-ce que tu travailles toute seule ou t'as quelqu'un qui t'aide?
Eh ben écoute, je suis toute seule, mais moi je suis toute seule vraiment. Il y a que moi qui dirige tout ça, mais j'ai de la chance d'avoir un entourage qui quand même m'aide sur le plan, émotionnel ou j'en sais rien, mental. Ils sont
et puis aussi
logistique, carrément, complètement. Non, ils sont là pour moi, donc je suis hyper reconnaissante de les avoir à mes côtés. Mais bon, c'est vrai que moi sinon je suis toute seule, mais j'ai de la chance de les avoir parce que c'est pas facile de diriger toute seule une entreprise. Donc voilà.
Quel genre d'article tu as ?
Eh ben écoute, moi je fais un peu tout. Hein. Alors moi j'ai des vêtements, des accessoires, des chaussures, mais c'est vrai que là dans un premier temps, je suis plus en train de me focus sur des vêtements, voilà.
Mais t'as des accessoires, j'ai vu sur ta page Instagram et sur ton site de vente, ouais. Tu as aussi des sacs.
J'ai
même vu des chaussures, mais j'ai pas vu de bijoux.
Pas de bijoux encore, j'aimerais bien, j'aimerais...
C'est déjà pas mal, hein.
Oui, c'est déjà pas mal, c'est vrai, mais j'aimerais bien avoir un panel un peu plus large. Mais c'est vrai que, oui, les sacs, j'ai beaucoup de sacs, ouais. Enfin, j'ai beaucoup moins que les vêtements, mais oui, j'ai des sacs, j'ai des jolis sacs.
Les vêtements, 2000 vêtements, mais... Enfin, 2000 pièces, hein,
oui,
pas, peut-être 2000 pas 2000
pièces.
Vêtements, ouais. C'est énorme.
Non.
De quelle époque, d'ailleurs, tu as ?
Bah, écoute, alors, ça part... Enfin, ça... Années 60, on va dire, années 60, 70, jusqu'à 2000. Voilà, j'ai pas vraiment une époque. Moi, je marche vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire que je vais pas me focus que sur le années 60, années 70. Non, je marche vraiment au coup de cœur. C'est vrai que j'ai beaucoup de pièces très années 90, mais beaucoup de pièces hiver, comme les blazers que tu connais très bien.
C'était des années 90.
Ouais,
je pensais que c'était plus années 80 parce qu'elles étaient assez épaulées.
Bah, 80,
mais bon, tu connais
80,
bien.
Oui, 80, 90, et ils appartenaient à ma mère d'ailleurs. Donc ils ont une histoire.
C'est ça qui est sympa, non ?
Ouais.
Dans les secondes mains, surtout dans les vieux vêtements de seconde, enfin les vieux les années 70, 80, 90, ils ont une histoire, on les imagine, c'est assez secret en même temps. Ils ont une histoire, mais on la connaît pas.
C'est clair. Mais c'est un honneur que tu portes les vêtements de ma mère dans le sens où ma mère c'est une femme qui a énormément de personnalité, qui a du caractère, et je te jure que par exemple, quand je vois, parce que dans ma famille, on adore tout ce qui est souvenir. Mon père adore la vidéo, la photo depuis qu'il est jeune. Il nous prend tout le temps en photo, en vidéo. Vraiment, on peut revoir des moments de notre vie. Et puis quand je voyais habiller ma mère ou ma grand-mère, et ben je me dis que franchement, elles ont vraiment, vraiment du goût. Enfin, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'adore. En fait, je regarde ça avec des yeux émerveillés. Je me dis, mais c'est quand même la classe, en fait. Hein.
À l'époque, en plus, les tissus étaient bien, même sur des petites marques, parce que t'as pas que
bien
des
sûr.
Grands créateurs. Tu as de tout.
J'ai de tout, bien sûr, bien sûr. C'est clair, c'est clair. Mais
même italienne, je suppose.
Bien sûr, beaucoup de made in Italy. Mais tu vois, faut savoir que les vêtements d'avant, et ben même si c'était pas des grosses marques, ben la qualité, elle était là. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qu'on retrouve moins maintenant. Exactement.
C'est des tissus qui perdurent. Quelles sont tes pièces préférées à toi? Et personnellement, lesquelles tu aimes mettre?
Alors, moi, j'aime beaucoup les pièces intemporelles parce que moi, je suis pas trop quelqu'un qui suit les choses qui sont à la mode. J'aime.
Tu mets du vintage beaucoup.
Bien sûr. Mais moi, j'adore mélanger. Et oui, et j'aime porter les choses intemporelles. Tu vois, par exemple, un beau jean Levi's qui te fait des super belles fesses, bien délavées. Une jolie robe en lin blanc, des choses classe. Une belle chemise blanche à jabot. Mais tu vois, que la qualité, elle est trop magnifique. Et tu vois, ça, c'est des choses que je sais que si je vois des photos de moi maintenant et je les revois dans 10 ans, je vais me dire, j'ai quand même la classe. Tu vois? Mais c'est vrai, parce que j'aime pas suivre la mode. J'aime en fait m'écouter moi et voilà, c'est ça. Donc, j'aime aussi, tu sais, les belles robes longues à paillettes, tu sais, un peu. tu sais, un peu cocktail. J'adore.
Oui, les années. Bon, moi,
un
j'aime bien.
Les années 90. Ah,
ouais, moi, je préfère les paillettes des années disco, un peu kitsch, ouais. La Dalida.
Ouais.
Mais je me rappelle, moi, ma maman, dans les années 70, elle mettait des robes de cocktail. Elle appelait ça des robes de cocktail. Ouais. Eh ben, je l'ai. Et elle était plus fine que moi, ouais. Et je les porte. Mais ouais, on a un tissu de jersey avec des fleurs.
J'ai beaucoup de choses comme ça là qui arrivent pour cet été, justement du jersey, des fleurs, des choses. On va y aller.
Où tu vends tes articles d'abord?
Alors, donc moi déjà j'ai une page Instagram avec un petit e-shop qui est relié. Bah du coup, on peut y accéder facilement via mon Instagram. J'ai mon vrai site internet qui est en cours de création. J'ai une copine qui est en train de m'aider sur la partie e-shop. Et du coup, sinon moi je fais pas mal d'événements, de pop-up stores. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, exactement. Donc pas mal de pop-up stores. J'essaye de faire plusieurs pop-up par mois. Et là, cet été, ça va être une grosse première pour moi parce que je pars à l'étranger vendre mes vêtements.
À Ibiza. Pour les auditrices qui...
Oui, voilà, au Baléares, c'est ça, exactement.
Et avant, tu vas exposer le 22 juin sur le foot court. Ouais, c'est ça, hein.
Oui,
de Saint-Ouen, toute la journée, ouais. Sur un stand, ton propre stand.
Ouais.
Combien de choses tu vas proposer à peu près? Tu sais pas encore, mais ça va être de l'été, je suppose.
Oui, ça va être le 22 juin et le 24 juin, pardon. Et donc je vais avoir 4 portants et donc je vais favoriser, évidemment, des vêtements été, printemps, des belles matières assez légères, des imprimés, colos.
Des maillots de bain,
Alors, maillots de bain, tu sais, j'aimerais beaucoup vendre des maillots de bain, mais.
C'est pas facile
parce que moi, si je vends des maillots de bain, ça sera du neuf et pas des maillots de bain qui ont déjà été portés, parce que je sais que ça peut être un frein pour les clientes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que j'ai plein de maillots de bain vintage, mais qui appartenaient à ma maman.
Oui,
donc bon, c'est ma mère. Mais je sais que voilà, vendre
En tout cas, tu vendras de l'été.
Oui,
hein,
ouais,
de l'été.
Exactement. Complètement.
Et combien par portant, à peu près?
Eh ben, écoute, 4 portants. Donc je sais que sur un portant, on peut mettre environ une quarantaine de pièces. Donc bon, après je sais pas si je vais vraiment mettre blindé mes portants.
Mais tu vas pas être toute seule, quelqu'un va t'aider.
Oui, ben bien sûr, quelqu'un va m'aider. Il y a toujours quelqu'un qui m'aide. Ça fait plaisir. Mais donc voilà, je vais préparer une sélection pas mal. Ouais, une jolie sélection qui va vous plaire.
Et qui sont tes clientes? Quel genre de clientes tu as? De tous les âges?
Bon, alors déjà principalement moi c'est des femmes parce que je fais pas d'hommes ou d'enfants. Après voilà, des hommes peuvent très bien acheter des vêtements de femmes, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, c'est plus des coupes femmes que je vends. Honnêtement, ça va de 18 ans à 70 ans. Il y a pas de voilà, moi je suis pas en mode stratégie. Bon alors, il faut que j'ai cette catégorie de clients. Non, moi je vends les choses que j'aime, que je sélectionne à la pièce et puis qui aime prend et puis on voilà. Mais sinon franchement, j'ai eu des clients de 18 à 70 ans. Voilà.
Et dis-moi, ça doit être quand même compliqué de conserver 2000 pièces et tu les connais pas par cœur, c'est ça?
Non, je les connais pas par cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui appartenaient à ma maman. Mais bon, j'ai de la chance de les stocker dans la maison de mes parents, hein, qui habitent dans le 77, donc c'est très voilà.
Mais t'as aussi un pied à terre sur Paris quand tu fais des events sur Paris, de pouvoir. Ça doit être compliqué quand même, 2000 pièces.
Ouais, ça
fait rêver, quoi. Ça fait beaucoup rêver. Quelles sont les plus belles pièces que tu as trouvées, que tu as chinées? Donne-nous un ou deux exemples vraiment où tu as flashé. Alors
c'est
peut-être
clair.
Que tu les as mises en vente et puis peut-être que tu les as gardées.
Eh ben, je vais te raconter une petite histoire. Et j'étais très contente ce jour-là. Je sais que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Alors en fait, je suis une friperie sur Instagram et qui... Souvent, poste en story. Ah, regardez, ce dimanche-là, on va avoir tel article. Bon, donc moi, je savais que tel jour... elle allait mettre un article phare en vente. Et donc l'article, c'était un trench Burberry. Donc je me suis dit non mais incroyable, un trench Burberry, c'est trop sympa. Enfin voilà, c'est un intemporel, c'est hyper beau. Enfin voilà, je sais que ça dans ma boutique, ça va hyper bien passer. Donc la boutique, elle ouvre, je sais pas moi, généralement à 10h. Donc je me suis dit bon, Léa. Trench Burberry, bon, essaye de te réveiller un peu plus tôt, tu vas avant l'ouverture pour quand même essayer de choper la pièce, quoi.
Parce que mais c'était pas sur un site, c'était dans une boutique.
Ah oui, c'est une boutique physique. Et en fait, c'est une boutique qui fait des petits prix. Il y a vraiment de tout. Hein. Tu peux vraiment trouver tout, comme je sais pas moi, du Zara, comme du Burberry, voilà. Mais ce qui est bien avec cette boutique, c'est que c'est des prix vraiment pas chers. Et en fait, les articles sont en très bonne condition.
C'était une vente vintage ou...
Ouais, bien sûr. C'est un magasin de seconde main vintage. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, écoute, je me lève plus tôt. Je vais aller essayer de choper cette pièce-là parce qu'en train de Burberry, c'est quand même la base. Et du coup, je me pointe devant la boutique et je vois que déjà il y a 2-3 personnes.
Ouais, ouais.
Je fais ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais alors moi.
2-3 personnes, ça va, hein. Parfois, ouais. Ça peut être.
Ah oui. 2-3 personnes. Je me dis, bon, le trench, je pense qu'il va me passer sous le nez. Bon, c'est pas grave. Et là, je vois qu'il y a une queue derrière moi immense qui commence à arriver. Je me dis, oh là là, non, mais les gens, je pense qu'ils ont vu la même story que moi. Ils ont eu le même, ils ont eu le même déclic que moi. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je me lèverai à 6h du matin. Et donc, bref, je rentre dans la boutique. Je vois une nana qui chope directement le trench Burberry. Je me dis, bon, Léa, c'est pas grave. Va ailleurs, fouine. Parce que c'est le jour des arrivages en même temps. Donc, la boutique, elle est remplie de pépites. Et donc, je fouine. Je vais là où il y a personne. Parce que je me dis, bon, les gens, ils ont même pas vu que la fille avait pris le trench. Moi, j'avais vu du coin de l'œil qu'elle avait déjà pris la pièce. Je me dis, bon, Léa, tu te concentres sur autre chose. Tu vas chercher autre chose. Et je suis hyper contente parce que j'ai trouvé deux vestes. Veston Yves Saint Laurent, magnifique.
À la place du trench.
À la place du trench.
Eh ben oui. Et dis-toi bien que le trench, il y en a quand même plein.
Ah oui, il y en a
plein. Ouais, donc, plutôt que de Yves Saint Laurent, il n'y en a pas plein. Donc, ouais, t'as fait une belle trouvaille. T'en as trouvé deux.
J'en ai trouvé un rouge qui est très.
En cuir ou en tissu?
Non, c'est du tissu avec des très beaux boutons. Donc, le rouge que j'ai déjà vendu. Et un beau veston, pareil, Yves Saint Laurent bleu turquoise, mais cette fois-ci en lin. Et donc celui-là, je le garde de côté pour cet été, donc je vais certainement le vendre.
T'en gardes bien quand tu chines quand même, rassure-moi.
Bien sûr, évidemment.
Non, parce que je me dis, quand même, faut que tu te fasses plaisir, hein, parce que sinon, sinon il n'y a plus de... Tu vois, il faut à la fois faire plaisir à tes clientes, puisque tu chines avec amour. Ouais. Et ça, je peux vraiment le positiver, parce que j'ai vu moi-même tes pièces, ouais. Et je le dis... aux auditeurs et aux auditrices, tu es la première à qui j'en ai acheté. Ah. J'en ai acheté aussi à
Bertil.
Voilà.
Ouais.
Hein, qui fait que des pièces véganes.
Oui, oui.
Voilà, vous êtes les seuls à qui. Et pourtant, je peux te dire que j'ai fait beaucoup de boutiques.
C'est gentil.
Voilà. Donc, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Parce que là, tu as beaucoup parlé.
Oui, j'ai beaucoup parlé, mais qu'est-ce que je voudrais dire?
On se retrouve donc le 22, parce que moi, je vais venir.
Oui, bien sûr. On se retrouve le 22 à Saint-Ouen avec plaisir. J'ai trop hâte de te faire découvrir ce que j'ai préparé, ce que je vais préparer. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire pour la suite? Je suis hyper contente, hyper excitée, parce que depuis que j'ai commencé l'aventure, tout roule. Dans le sens où je suis très heureuse, je me sens alignée parce que beaucoup je me suis cherchée quand j'étais jeune, pendant mes études, mais je savais au fond de moi qu'il fallait que je m'écoute. Et franchement, le mot de la fin, c'est que vraiment il faut s'écouter et faire les choses avec le cœur, parce que quand on fait ça, je pense que les gens le ressentent. Et du coup, nous on est épanouis et puis les gens le ressentent.
Et le ressentent aussi dans tes... Je te dis, moi quand je suis venue te voir, c'est vrai que j'ai trouvé que t'étais un joli soleil.
Ah.
Et c'est aussi... ça se voit dans tes vêtements,
c'est
tu gentil, vois. Je te dis, c'est vrai, je te mens pas. Tu es la seule avec Bertie à qui j'ai acheté des vêtements. Voilà.
C'est gentil, ça me fait très plaisir.
Alors on se retrouve le 22 juin.
Oui, avec grand plaisir.
Merci Adrien et Arnaud, directeur général et président de la société et boutique Quel Bon Goût. Retrouvez-les sur leur site pour le Click and Collect, sur Instagram Quel Bon Goût, et vive le locavore et Made in France, puisqu'ils vous proposent des produits de saison frais, bio, de producteurs locaux à petit prix. Merci Léa et sa boutique Soleia Vintage Shop, de la slow fashion stylée et de qualité. Retrouvez-la sur Instagram également. Et à noter, le 22 et 23 juin, elle expose sa boutique sur le food court de Saint-Ouen. Merci Rino, le créateur du plus grand vide-dressing de France, j'ai nommé Violette Sauvage, sur Instagram également. Une caverne d'Ali Baba à ne manquer sous aucun prétexte, les 17 et 18 juin, de 11h à 18h, au Palais de la Femme, 96 rue de Charonne, dans le 11e. Je remercie donc encore chaleureusement mes invités. L'émission s'achève. Merci Francky pour la réalisation. Retrouvez les infos sur Facebook Animaux et Nature sur EDFM, sur Instagram Beautiful Zaza. Bisous les sauvages et bonnes vacances.